s'occupe de ce chèvre.
Oui, elle a dit qu'elle avait
le temps. Ouais, on va y aller. On va essayer de démarrer un peu plus tard que. Un peu plus tôt que hier.
Ouais, parce que comme j'ai pas de flash, il y en a qui sont...
Ah mince.
Enfin, je peux le mettre, mais c'est tellement... Ça dérange tellement...
Ah oui, ouais, ouais.
Je peux peut-être le mettre... Il y en a qui...
Moi, si tu veux, ce que je disais, c'était plus les photos de vraiment de... Après, bon, il y a des photos, on peut prendre aussi, mais c'est sympa, mais...
De toi à l'écran, enfin de ouais. Toi opérationnel.
Non, mais pas moi, moi je m'en fous, c'est une tableau.
Mais si, pour ta certification, c'est ça.
J'ai pas besoin d'être sur les
mais
photos.
Mais là, il y en a, hein. Je veux dire,
j'aime pas les photos, moi j'aime pas être pris en photo déjà.
Oui, bah.
Tu vois.
Je vais me mettre vraiment pour la rose, c'est ça. Mais seulement, je ne peux pas bouger pour aller entretenir le feu et tout ça.
Bon. Bonjour. Non mais c'est impeccable, c'est juste privé de petit-déj, mais sinon là c'est bon.
Ah bah c'est
non, il y a encore de la brioche là.
C'est ouvert, ça
porte une gauche. Ah, c'est... Bon, bah allez. On y va ? Allez. On a un reporter en plus. Donc ben, aujourd'hui, on va parler un peu plus des techniques. On va reparler... Alain, si tu as des questions sur le design, comme t'as pas... Enfin, je sais pas si tu as lu un petit peu les principes de permaculture depuis, si tu as des questions. Ça va ? Ouais. S'il y a un point qui a, je sais pas, qui a mûri pendant la nuit et vous avez des questions, n'hésitez pas, ça peut être maintenant. Sinon, on part un peu plus sur, sur le sol au départ et puis après plus sur des techniques. Questions. Ils sont bons. Donc le sol. Le sol, c'est... il est considéré comme simplement un substrat dans l'agriculture industrielle. Mais en fait, en réalité, c'est lui qui nourrit la plante. C'est à partir du moment où on ne met pas de produits chimiques dessus. Donc il apporte... Enfin, c'est lui et puis l'atmosphère aussi. Bon, j'ai pas parlé... Enfin, j'ai pas... Je vais en parler aussi. Je ne l'ai pas mis dans le mind map là, mais c'est l'atmosphère apporte énormément de composants à la plante en fait. Elle prend pas que dans le sol, quoi. Elle prend beaucoup par les feuilles, notamment du carbone. Donc en fait, elle est nourrie. La plante est nourrie par ces deux pôles, pôle feuille, pôle racine. Donc le sol, c'est une éponge. Normalement, un sol vivant, c'est une éponge, puisqu'il y a des racines un petit peu partout. Il y a des anciennes racines mortes, donc qui vont permettre d'aérer le sol, de faire vivre tout un tas de micro-organismes sur cette matière organique. Donc du coup, il ne faut pas voir ça comme quelque chose d'extrêmement compacté. Alors, Martine, ce qu'elle a ici, c'est un sol assez, enfin, qui se compacte facilement. Parce qu'il est argileux et qu'il n'a pas trop de matière organique à l'intérieur, ou pas forcément.
Il y a pas mal de vers de terre pourtant, hein, mais les puits, là par exemple, cet hiver, en damé, au point que la surface est jaunâtre. Quand on ouvre le sol, elle y est brun.
Non, c'est l'alimente qui s'étire en fait. Hein.
Ouais.
Ça, c'est typique des terres de l'eau chaude.
Hein. Ah, ça, c'est de la mousse en fait. Hein.
Non, c'est pas de la mousse,
c'est l'argile communale.
Oui, c'est. Oui, c'est une croûte de battance qui se fait parce qu'on a un petit limon argileux qui
alors, en fait, c'est d'avoir
laissé calcifie avec la pluie. C'est quand la terre se compacte et que ça fait une croûte.
C'est l'impact des gouttes quoi, sur tous les puits.
Voilà. Il y a une décarbonisation qui se fait par la pluie et cette croûte d'argile qui fait un petit limon qui croûte, mais en dessous, des fois, ça empêche la germination des graines, des choses comme des petites graines, des choses, tu vois.
Mais on verra quand on fera un tour dans le jardin.
Oui, bien sûr.
Parce qu'en bas, j'ai commencé à l'ouvrir à la verrière, puis on revient avec le
en dessous, c'est bon.
Ouais.
En dessous, c'est bon, c'est ça.
Non, mais c'est juste, oui.
Mais c'est des effets de
ces choses. Ouais, ça craque.
Donc c'est des
herbes
qui font du mus dessus.
Alors,
arbres,
on va repartir.
Tu peux cultiver tout à l'heure, voilà.
Alors ça, tu n'étais pas là quand je l'ai expliqué tout au début. En fait, c'est une technique qui est utilisée en
maternelle.
En maternelle aussi, mais c'est pas exactement la même. C'est une technique qui est utilisée en permaculture sociale pour obtenir le silence sans avoir à crier au-dessus de ceux qui... Non, pas du tout. Sans avoir à crier plus fort que ceux qui parlent. Voilà, donc en fait, quand quelqu'un lève la main comme ça, s'il demande le silence... ça peut être n'importe qui, hein. Il demande le silence et les autres le voyant, ils l'imitent. Et au bout d'un moment, tout le monde est la main en l'air et bouche fermée. En principe, ça marche comme ça. En principe, ça va bien.
Voilà.
Et bah, ça permet de se centrer sur une discussion parce qu'après, si on part, si on s'éparpille, on n'est plus. Alors je reviens parce qu'en fait c'est un thème tellement vaste. Bon, là, il y a plein d'items dans le sol, tout est interconnecté, donc c'est assez compliqué de vraiment être synthétique. Je voulais dire quelque chose par rapport au ver de terre, à la remarque que t'as fait tout à l'heure, que je voulais déjà dire hier et puis que j'ai finalement pas dit. Non, mais laisse-moi le dire. Je suis allé en Belgique voir les jardins d'une association qui s'appelle Fraternité Ouvrière. Et ils utilisent la technique de mettre directement les végétaux en décomposition sur le sol, enfin leurs épluchures, tout ça. Et donc ils étalent ça sur, ils ont 1500 m², ils mettent ça, petit bonheur à la chance, là où ça tombe, quoi. Et je crois que c'est l'INRA, c'est peut-être pas l'INRA parce que c'est en Belgique, mais enfin c'est un organisme officiel qui sont venus chez eux pour étudier le nombre de vers de terre qu'il y avait dans leur sol. Donc ils ont pris une partie de terre, ils ont emmené dans leur labo, parce qu'ils pouvaient pas compter sur place évidemment. Donc ils ont compté les vers de terre, et puis ils sont revenus, puis ils ont dit non, on a dû se tromper, on a dû tomber à un endroit où il y avait beaucoup de compost, ou je sais pas, mais il y a un problème. Donc on va reprendre à plusieurs endroits, ils sont repartis, ils ont recompté, puis c'est pareil. En fait. Et ils ont une quantité de vers de terre, c'est hors de leur tableau, quoi. C'est hors de leurs normes en matière. Voilà. C'est pour ça que je suis pour le compostage à froid en place sur le sol, et surtout dans des sols comme ça. Et de ramener de la matière organique, que ça soit. Moi je mettrais du charbon de bois là, mais bon. Ça peut être le charbon de bois au départ. Les poules vont se charger de gratter au fur et à mesure. Bon, ça va bien se passer.
Et dans le compostage à froid, est-ce que tu broies un peu tes déchets pour, est-ce qu'on compacte en petits bouts et est-ce qu'on fait un pas en
Moi, je ne broie pas, je jette comme ça. Idéalement, il faudrait peut-être gratouiller juste un peu la surface de la terre pour que ça soit un peu recouvert, pour qu'on perde moins d'azote, parce qu'il y a de l'azote qui va repartir dans l'air inévitablement quand on est en surface comme ça. Mais voilà quoi. Oui, vraisemblablement. Ouais, ça accélère. Mais est-ce que c'est intéressant d'accélérer le processus? Voilà.
Les organismes qui sont spécialisés dans la fragmentation.
Qui font ça. Voilà. Voilà. Ouais. Parce que si on veut accélérer le processus systématiquement, on va obtenir ce qu'on a dans des quand on met du BRF en excès, par exemple, c'est à des fins d'azote, des systèmes comme ça, à plus petite échelle, parce qu'on va en mettre moins, donc voilà. Mais on va à un moment amener une quantité de masse à digérer, et puis après, bah, hop, il n'y en aura plus. Donc alors que si on avait quelque chose, une alimentation du sol plus régulière, c'est meilleur, quoi. Moi, je suis plus pour effectivement laisser les micro-organismes qui sont là pour ça faire ce travail, quoi. Donc, une éponge, à partir du moment où on ne laboure pas, on n'est pas tout le temps en train de le retourner, etc. Donc, c'est-à-dire que on a vraiment la structure d'une éponge sur un sol vivant. Quand on le retourne, toutes les petites alvéoles de l'éponge, on les écrase, on les compacte, on croit qu'on aère le sol parce qu'on crée au niveau macroscopique des petites mottes qui font que ça monte un petit peu, mais à la première pluie, ça va tout se retasser, puis c'est fini, quoi. Alors que le sol, au départ, lui, il a une structure qui est là, qui tient sur les fibres des anciennes racines qui sont dans le sol et qui est utile.
Donc ça veut dire jamais de labour? Où est la limite et combien de profondeur
Alors, ouais, ça dépend. on peut pas dire des choses complètement absolues. Après, quand on démarre un jardin, des fois, on peut se dire ça peut être intéressant d'enlever l'herbe et effectivement de retourner pour enlever cette herbe. Il y a d'autres techniques, mais on peut faire ça.
Plus on va avoir des horizons minéraux compactés, etc. Donc ce qu'il faut garder, c'est la partie humus qui est au-dessus, qui est la partie fertile, et pas mélanger ces horizons et faire en sorte que les micro-organismes soient tout au fond et puis qu'on ait un sol plus stérile dessus, puis qu'il faut que le travail se refasse pour que... Voilà. Donc il faut garder la structure en strate qui est importante. On peut quand même décompacter pour les mauvaises herbes et tout ça, mais il ne faut pas mélanger ces horizons.
Alors, ce que tu dis, ça vient. Je vais compléter un tout petit peu. Voilà, j'étais sur. Je voulais parler des organismes, des micro-organismes aérobie et anaérobie. Alors, je ne sais pas si vous savez tous ce que c'est. Donc, aérobie, je veux un petit rappel quand même. Aérobie, ils ont besoin d'oxygène pour vivre. Et anaérobie, ils n'ont pas besoin d'oxygène. Bon, il se trouve aussi que en principe, les gens qui étudient les micro-organismes disent qu'on ne peut pas avoir les deux en même temps. Il se trouve qu'il y a des endroits où on peut avoir les deux en même temps. Ça existe. Il y a des interfaces, encore une fois. Voilà, exactement. Et donc, quand on prend un sol, on a des aérobies au-dessus, des anaérobies en dessous. On retourne, on tue tout le monde. En gros, ceux qui avaient besoin d'air, on les met dans la privation d'air, et ceux qui n'avaient pas besoin d'air, on les met à l'air. On tue une grande partie, à part l'interstice qui a réussi à s'en sortir. Voilà. En fait, on affaiblit le sol, on le fatigue. Ça sera un peu décousu, mais c'est pas grave. Au moins, comme ça, on résout les questions au fur et à mesure. Une technique, par exemple, pour remettre un sol, pour réparer un sol, c'est celle-ci. C'est-à-dire, on passe ici juste une sous-soleuse, donc à 6 cm, donc c'est assez peu, en plantant des végétaux dedans qui vont être... Mais vous voyez pas, là? Si? Vous écoutez? Bon, ok. Non, mais il est auditif. oui, sauf que après il faut juste que je retrouve le... Attends, 24, ouais, je vois à peu près où elle est. Parce que je ne sais pas passer directement de là à la visionneuse de cette image-là. Attends, je regarde tout petit coup si je le trouve. Ouais, mais ça va... Ouais, mais voilà, ça repart au début, c'est ça. Ouais, non, mais c'est bien. Voilà. Ou peut-être. Sinon, peut-être en vous mettant devant là aussi. Ça va, vraiment? Ça partira pas, donc. Ok. Donc là, on passe une sous-soleuse à 6 cm de profondeur.
Alors, une sous-soleuse, c'est un outil ou pas ?
Une sous-soleuse, c'est juste un outil, c'est une barre verticale avec... Bon, ben là, il y a une espèce de petit triangle. Alors, il y a des... Comment ? Des sociétés... Enfin, voilà. Ça,
dans un temps.
La barre, le triangle, donc, ça fait... Mais ça retourne pas. Hein, ça fait juste que ouvrir le sol. Hein, voilà, on fait juste un sillon, on ouvre. Et à ce moment-là, on va planter à ce moment-là des graines dans cet endroit-là. Donc si ça manque d'azote, on va planter plutôt des légumineuses qui vont rapporter de l'azote. Bon, en fonction du sol qu'on aura. Souvent, les légumineuses, ça marche bien. Les pommes de terre, ça peut le faire aussi. Pour rééquilibrer un sol, c'est intéressant. Donc, première opération. Deuxième opération, un petit peu plus tard, une fois que les racines ont commencé à pousser, on va un peu plus profond. À 12 cm, Et puis troisième opération, on descend encore plus à 18 cm.
Ouais. Et l'engin dans le bas derrière un tracteur, c'est ça ?
Tracteur, motoculteur, cheval.
Ouais.
Pourquoi pas ?
Il en faut deux, ouais.
C'est pas très courant d'avoir un cheval. Hein. J'en connais, moi. Ça fait pas, là ça retourne pas, hein, c'est pas.
Centimètres.
Oui. Ouais. Alors ouais, les griffeuses, bon, ça revient un petit peu à la grelinette en fait. C'est le Monsieur Grelin, il avait vu que les gens en Amérique du Sud griffaient la terre. Et donc il a fait un outil à main qui fait la même chose. Moi je connais Gabriel Vaudray à Bretigny, je crois, qui est avec lui, il a deux chevaux, Nathalie a deux chevaux, et il retourne quoi. Donc à partir du moment où il retourne, mais il a de la terre. Par contre, il a de la terre légère lui. Il a de la terre qui est très aérée. Quoi. Qui est très...
Ah,
avec une pelle. Ah oui, profond. Hein, ben, ils vont mieux juste griffer que soulever. Il vaut mieux juste griffer que soulever. Parce que si on soulève, effectivement, on ramène de l'air là où...
C'est bon
d'aérer. Ben, oui, mais sans tuer la flore qui est à cet endroit-là, quoi. Bon. Parce que justement, si on arrive dans la zone anaérobie et qu'on soulève, ben, on va faire mourir les micro-organismes qui sont là. Donc ça va mettre plus longtemps à se régénérer, il faut qu'il redémarre. Alors ça, bah, ça a le mérite de ramener, de partir d'un sol qui est pauvre en matière organique, où il y a juste cette petite zone d'humus, et d'augmenter en fait l'épaisseur de l'humus qu'on va avoir, puisque à terme, on va avoir toutes ces plantes qui vont mourir. Alors on ne va jamais les arracher, on va les couper, une fois qu'on va pour récolter. Donc ça fait que là, on laisse tout un tas de canaux pour que l'eau pénètre dans le sol. Et puis, les canaux qu'on a nous-mêmes creusés, plus les canaux que les plantes ont creusés par leurs racines. Et on laisse du carbone jusqu'à une profondeur importante. Enfin, du carbone, de l'azote si on a mis des légumineuses ou des plantes qui ramènent de l'azote. Voilà. Ça, pour réhabiliter un sol, c'est une technique. C'est une technique qui va très bien.
Ce qui est important aussi là-dedans, c'est que les racines contiennent toutes les mycorhizes, des champignons associés, qui sont très importants dans la vie du sol, et que plus on en met, plus ça favorise.
Oui, il y a un lien en fait entre. Il y a un échange.
Les mycorhizes ?
Quasiment. La grande majorité des plantes, il n'y a pas que les arbres, hein, la majorité des plantes.
Non, je ne sais pas que les arbres, mais il n'y a pas que les légumes.
Non, les légumineuses, c'est des vésicules.
C'est des nodosités dans lesquelles.
Ils font
les deux, mais.
Non, mais les mycorhizes, c'est un champignon, les mycorhizes.
Oui, c'est un champignon. Je croyais que c'est un nodule, c'est peut-être.
Non, c'est des bactéries. C'est des bactéries qui captent l'azote et qui le restituent après dans le sol. C'est pas la même chose.
Il y a un échange, c'est-à-dire que la plante fournit du sucre aux champignons et le champignon fournit de l'eau, notamment de l'eau.
Un sol, en fait, c'est ça, c'est un échange entre les micro-organismes, les sels minéraux, les champignons, etc.
Les petits animaux qui vivent dedans, les collemboles, etc.
Cette diversité, parce qu'on est dans une biodiversité, c'est un système, c'est un écosystème en lui-même. Et donc, plus on favorise la biodiversité là-dedans et tous les échanges, plus ça sera riche.
Exactement. Alors là, ce qu'on fait, en fait, quand on fait ça, on augmente la zone aérobie. Puisqu'en fait, on fait pénétrer de l'eau et de l'air. Mais progressivement. C'est-à-dire, on se met pas à tout tuer. C'est pas violent, ça. C'est-à-dire que là, tant qu'on est à 6 cm, on travaille toujours dans la zone aérobie. Donc, on permet juste à l'air de pénétrer un peu plus profond. Elle va pénétrer plus profond. Les racines vont se développer. Quand la plante mourra, ça permettra encore de pénétrer un peu plus profond. À la deuxième étape, on refait ça. Donc ça, c'est quelques mois après, une fois que nos plantes ont commencé à pousser. Les trois opérations peuvent se faire sur l'année. Après, suivant ce qu'on met hein, comme plante, si on a besoin de récolter, bon, bah, c'est autre chose. Ouais, exactement. Exactement. Le de laisser vivant. Oui, ça fait oui ça a le même oui c'est un peu la même fonction, mais il faut en avoir. Sur là on est sur un sol où on a 2 cm de végétation au départ, donc on a un sol qui est ouais, qui est pas en forme quoi. Donc ça permet d'accélérer un peu le processus. Bon alors est-ce que c'est bon d'accélérer, toujours la même question, mais de le faire, si on a du temps, on peut faire ça effectivement, on attend, on aura des plantes qui vont venir, nous c'est ce qu'on avait fait à Messigny, on a des plantes qui viennent et puis on laisse les racines en place, une fois que les plantes sont mortes, ça fait de l'infiltration d'eau, d'air, bon, on retombe sur ce système-là. Et si on a besoin de produire, ça peut être intéressant d'aller sur des solutions comme ça, parce que ça va plus vite. Alors, je vais... Okay. Alors tout le but de tout ça, c'est de produire de l'humus. Alors il faudrait que je vous fasse un petit peu différent. Bon, ça sera décousu, je suis désolé, mais ouais, on suit un fil qui est pas celui que j'ai mis là, mais bon, c'est pas grave. Le but, c'est de produire, c'est d'avoir un maximum d'humus, que ça soit en couvrant le sol. Alors couvrir le sol, c'est aussi une autre façon de, c'est une façon de garder de l'humidité jusqu'à la surface. Donc de favoriser de la vie de micro-organismes, et notamment les vers de terre, qui eux, ben, fabriquent l'humus, quoi. Ils agglomèrent en fait un peu tous les minéraux aux matières organiques. Et... Ouais, 20 fois par jour. Je savais pas ça. Par jour, ouais, c'est possible. Ouais, ok. Des dévoreurs.
Ils ont des bactéries à l'intérieur de leur système digestif qui va justement fabriquer.
Ça dépend lesquelles.
Cette colle là.
Ils travaillent pas tous.
Ils travaillent, oui. Ouais.
Ils parlent
C'est ça. Quand on est sur l'humus, ce que j'ai pas parlé de pH, ce que je voulais faire au départ. Alors je sais pas si vous êtes tous familiarisés avec le pH ou oui. Côté médical, bon, et je réexplique quand même, c'est pas grave. Le pH 7, c'est un pH neutre, hein, dit neutre, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est, enfin, une matière qui a pH 7, elle n'est pas agressive, quoi, elle n'est pas corrosive, elle est pas, voilà. Quand elle est un pH inférieur, elle est acide. Quand elle a un pH supérieur, elle est alcaline. Donc, acide, quand on descend vers des pH très faibles, on a quelque chose qui peut vraiment attaquer. L'acide de batterie, il vaut mieux pas s'en mettre sur les mains, quoi. Et quand on va vers des pH très élevés, en allant jusqu'à 14, c'est pareil, il vaut mieux pas s'en mettre sur les mains non plus, parce que c'est aussi très corrosif d'une autre manière. Et donc, dans le sol, on cherche un espèce d'équilibre de pH. En gros, en dessous de 5,5, on commence à être bien acide. Et puis, au-dessus de 7, parce que le sol est toujours un petit peu acide quand même. Au-dessus de 7, il y a certaines plantes qui ont du mal à trouver leurs minéraux, quoi. Alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est que par rapport au pH, plus on est acide, plus on a une circulation des minéraux de tout dans le sol. C'est-à-dire que l'acide, elle fait circuler. D'ailleurs, si on met quelque chose, si on met un acide sur quelque chose, en général, ça le dissout, il y a une production de gaz, ça le fluidifie, ça le liquéfie. Si on met une base, c'est l'inverse. Si on veut faire du ciment ou de la chaux, ça devient dur, on va vers quelque chose qui est plus, bah, qui est plus dur, quoi. Donc si on met, par exemple, si on étend de la cendre de bois sur le sol, on va finir par faire une espèce de croûte comme du ciment, quoi, parce que c'est alcalin. Donc en fait, il faut doser de manière à ce que ça soit vivable pour les plantes, quoi. Et il se trouve qu'il y a quelqu'un qui fait très bien ce dosage, bah c'est justement les micro-organismes, anaérobie, aérobie, les mycorhizes, et les micro-organismes du sol, les vers de terre, ils fabriquent l'humus. L'ensemble de toute cette vie du sol fabrique l'humus. Et l'humus, il est à 6,5. Et ce qui est un pH idéal pour la plupart des plantes. Alors après, les châtaigniers, ils aiment mieux quelque chose de plus acide. Cranberry, comment on dit en français, canneberge. les canneberges aussi, elles aiment bien l'acide, mais il y a énormément de... Voilà les myrtilles, ouais. Il y a énormément de plantes qui, dans 6-5, elles sont aux anges, quoi. Et donc, dans 6-5, produit par l'humus, on peut faire du 6-5 sans vie. Hein, si on met de la chaux sur notre terrain pour qu'il arrive juste à 6,5, ou qu'on acidifie un petit peu, parce que ici on est sur un terrain calcaire, donc on aura tendance à être plus alcalin naturellement. Donc on pourrait acidifier un peu, puis dire on met de l'acide par terre, et puis on va diminuer notre pH. Mais d'une, ça ne sera pas stable, parce que l'acide il va vite attaquer la roche, et puis donc hop, ça va repartir dans son sens naturel. Et puis de deux, ben ça sera pas vivant non plus. Donc après, on va essayer de faire pousser des plantes là-dedans. Ça sera un pH correct, mais il y aura pas de matière disponible dans le sol. Donc c'est pour ça que l'humus c'est la seule solution. Parce que l'humus c'est une espèce de colle. Donc ça va empêcher les réactions trop vives en plus dans le sol. Donc ça va empêcher que ça se déstabilise d'un côté ou de l'autre, quoi. Ça va être un stabilisateur du sol, enfin, en termes de pH. Il faut que je vous fasse une petite coupe, hein, un petit peu du sol. En gros... Sur un sol vivant, hein, je ne parle pas de sol agricole, c'est tombé. Donc admettons qu'on soit dans une forêt. Ici on a une couche de feuilles qui est en décomposition, avec toute une vie de micro-organismes qui sont là-dedans. En dessous, là on a la roche mère, un endroit. Donc admettons qu'on soit ici, c'est du calcaire. Et puis, on va avoir quelques pierres qui vont s'en détacher de temps en temps. Ça va comme ça? Attends, je vais éteindre le truc, parce que je vois pas ce que je fais. Bah, si je le mets là-bas, non, mais c'est bien. Donc là on a la roche mère. Donc en fait là on est dans du tout organique, et là on est dans du tout minéral. Et entre les deux, ah ben il y a un mélange qui se fait, ou pas. Si on a un sol qui est pas vivant, ben on va rester dans du tout minéral. Mais si on a un sol vivant, ben ici on aura beaucoup de minéral, on aura une terre qui sera pratiquement exclusivement minéral, enfin une terre, je ne sais pas, même pas si on peut appeler ça de la terre, quoi. Et puis on va avoir une zone ici au-dessus de terre décomposée, enfin de végétaux décomposés, d'humus. Bon, j'écris mal, hein. et là on va avoir un mélange des deux dans toute cette zone là. Donc on va être entre la matière organique pure et la matière minérale. Et les vers de terre, eux, ils passent leur temps enfin, certains vers de terre, à monter et à redescendre dans ce système. Et donc ce qu'ils font, c'est qu'ils font le mélange. Ils labourent, mais ils labourent profond. Hein. Et sans tout retourner, sans. Etc. Et donc les micro-organismes aérobies vont être ici. Et les anaérobies vont être là. Enfin, oui, jusqu'à là, parce qu'après, quand on est dans le tout minéral, il n'y a plus rien à manger, même pour eux. Quoi.
Ce qui est important, c'est
qu'il
faut du minéral, parce qu'il
faut les sels minéraux. Oui. Oui. Alors, je me suis longtemps posé la question à quoi servaient les pierres dans les champs. Et en fait, elles servent à ça. Elles servent à ramener un pH. Parce qu'en fait, le vivant, il fabrique souvent de l'acidité. La plupart du temps, il fait de l'acide. Donc, il faut quelque chose pour tamponner cet acide et puis pour le ramener dans un pH plus neutre. Pour que tout ce processus de vie puisse rester sur de l'humus à pH 6,5.
Est-ce que
tu
es en train d'expliquer c'est le milieu qui permet aux organismes de vivre. Le milieu pour que les organismes se développent tout seuls. Oui,
c'est ça.
De la matière organique, on apporte en plus des organismes aussi.
Enfin, voilà.
Mais là,
en
on
plus,
apporte
non.
Le milieu qui permet
la vie. Il y a quelqu'un qui explique vachement bien tout ça, c'est Claude
Bourguignon. Oui, Claude Bourguignon.
Tout à fait.
Le livre La Terre, le sol et les champs, je l'ai prêté, c'est dommage. Regardez, je ne retrouvais pas.
En fait, là, on est dans la formation des sols. Nous, ce qu'on appelle l'argile, en fait, c'est un composé qui est issu de la roche mère. Et donc, la matière organique fraîche va créer l'humus. L'argile, en chimie, est chargée négativement. L'humus est chargé négativement. Et le seul élément qui est capable de rassembler l'humus et l'argile pour former le complexe argilo-humique, c'est le calcium. Donc la formule, c'est Ca2+. Donc, deux charges positives pour accrocher l'humus et l'argile et les relier ensemble et les stabiliser. Et le but du ver de terre, en fait, c'est d'aller chercher l'argile et les minéraux qui sont dans le fond, qui sont issus de la roche mère, les ramener au-dessus, de manière à ce qu'il y ait rencontre entre l'humus et l'argile, et former le complexe argilo-humique, et stabiliser les sols, pour qu'ils soient capables de retenir l'eau, et surtout qu'ils soient stables physiquement, et qu'ils ne partent pas dans les rivières. Et, voilà. Donc, c'est la formation naturelle d'un sol.
Alors c'est la formation naturelle de tout sol qu'on a laissé tranquille.
Et est-ce qu'on a forcément du calcaire en roche mère ou tout pour avoir
Non, pas forcément. Non. Bah oui, vous avez du granit.
C'est ça, donc là, donc, où est-ce qu'il va chercher
Souvent il faut choler, justement, il faut rééquilibrer le.
Donc il faut mieux tomber sur un sol calcaire, c'est un peu l'idéal. Le
sol calcaire est plus vivant dans le sens où il favorise plus, mais quand il est trop calcaire,
il bloque les réactions.
Ben, il bloque donc, pas, en fait, il les accélère. Et donc, on a une perte des éléments nutritifs parce que c'est accéléré en définitive. Si, quand c'est un peu. Ça va plus vite. Quoi.
Et
en fait,
il bloque la
non, il. Non, j'y bloque le. Bah, quand c'est tout. Enfin, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, que quand tu mets quelque chose d'alcalin, ça va te stabiliser, mais te stabiliser en allant vers la pierre, quoi.
Oui, mais quand t'es très très élevé, mais quand un sol un petit peu plus calcaire que d'habitude, comme sur les roches ou des choses comme ça, si tu veux, t'as une perte plus rapide.
Bah, t'auras pas. C'est pas que t'as une perte, c'est qu'elle se libère pas. Les minéraux, ils se libèrent pas. Ils sont bloqués dans les poussières, dans tout ce qui est petit, et ça se libère pas. Là où tu as la perte, c'est quand c'est trop acide. Parce que, enfin, la perte, oui. C'est, quand c'est trop acide, ça circule trop vite. Effectivement, ça se dégage d'un coup,
c'est
ça
que c'est. C'est pas capté. À ce moment-là, c'est pas stabilisé.
Ouais, c'est pas capté. Là, ça part. Voilà. Alors que dans l'autre cas, c'est capté, mais c'est pas utilisable par la plante.
On dit la même chose. Parce que comme c'est trop capté, du coup, voilà. Pour moi, c'était une perte pour la plante.
Ah, pour la plante, c'est une perte. Dans les deux cas.
On dit la même chose.
Dans les deux cas. Voilà.
Et donc, justement, c'est trop capté. Quand on n'est pas sur un sol calcaire, le seul moyen, c'est de ramener de la chaux. Il n'y a pas d'autre.
Le sol se rééquilibre. Enfin, l'humus, il va être à 6,5, même sur un sol acide. Mm-hmm. Parce que lui, il va prendre. Les micro-organismes qui vont être là, ça ne va pas être les mêmes que sur un sol calcaire. Mm-hmm. Donc, ils vont aller prendre dans l'atmosphère, là, pour le coup. Ils vont aller prendre, s'il leur faut, ils vont aller prendre du carbone, ils vont aller prendre tout un tas de choses dans l'atmosphère qui va restabiliser un peu. Le carbone, il a un peu le même effet que le calcaire. Moins fort parce qu'il n'est pas aussi alcalin, il est loin d'être aussi alcalin, mais en tout cas il va ramener le pH, ça sera plus lent, tu auras toujours un sol qui sera plus acide. Enfin, je parle du sol lui-même, l'humus lui il va se stabiliser, mais le but c'est d'augmenter la taille d'humus, quoi, enfin la quantité d'humus que tu peux avoir, quoi. Plus tu auras d'humus et puis moins tu auras de, enfin moins ça craindra à tout niveau, quoi. Après, quand on est sur un sol acide, ben, y a des plantes qui sont faites pour un sol acide. Il vaut mieux cultiver les plantes qui sont faites pour un sol acide. Ça peut être une richesse aussi. À partir du moment où nous, ici, on n'a pas de châtaigne, on est bien content d'aller dans le Morvan de temps en temps en ramasser ou d'en trouver sur le marché ici à Dijon. Voilà, quoi, ça peut être aussi un débouché chez vous de dire bah voilà, nous on fait des, je sais pas, des confitures de châtaignes, des purées de châtaignes, tout un tas de choses, ou des châtaignes simplement, et de dire de toute façon il n'y a pas énormément d'endroits où il y a du sol comme ça acide granitique, même plus de calcaire que de sol acide, donc ça peut être une richesse aussi. Les canneberges, je sais pas, ça pousse dans le Morvan, à mon avis, ça devrait.
Les règles, je sais pas combien. Il y a de la myrtille.
Il y a de la myrtille.
Les canneberges, c'est
canadien.
Mais c'est la règle.
Ouais,
c'est plus gros. Ouais. Je sais pas s'il y a des règles ou
pas. Naturellement, je crois pas.
Et pour tout ce qui est on prend jusqu'à quelle profondeur alors de...
Alors pour tester le pH ou
pour tester
le pH, tu peux prendre à plusieurs profondeurs. C'est intéressant d'avoir plusieurs profondeurs. Bon, vraiment la couche du dessus, ça sert à rien parce que c'est
oui.
Enfin cette partie là, bon, c'est pas vraiment du sol. Enfin moi je la considérerais pas. La partie humus, donc voilà, c'est, tu le vois aussi en. À la limite, on pourra peut-être faire un trou quelque part pour pour voir ça. Ouais. On voit quand même des différences de couleurs, enfin, entre les différents niveaux. Donc si tu fais un trou, tu regardes les coupes et tu vois bien qu'il y a des différences. Donc là, tu peux tester à plusieurs profondeurs, te dire quel est mon sol côté minéral. Ben, si tu as une bonne couche d'humus, de toute façon, tu descendras pas ici. Hein. Là, c'est quand même un principe assez profond. Quoi qu'il y a des endroits où tu as ça au bout de 5 ou 10 cm. Moi, je testerai au moins dans cette zone et dans cette zone, quoi. Tu verras des différences de couleurs, des différences de texture, des différences de matière organique, d'odeur. Enfin, il y a plein de signes, quoi, qui montrent. Donc, et tu peux tester aussi à plusieurs endroits de ton terrain. Alors si un terrain est en pente, par exemple, en pente avec un creux, tu as souvent, parce que la pluie, bah, mine de rien, même si c'est un bon sol, elle réussit quand même à emmener un peu de minéraux. Donc généralement, tu as plus de hauteur de sol dans les creux que sur les pentes. La pente, elle va être plus nue, donc... S'il faut choisir un endroit pour mettre un jardin, il vaut mieux le mettre dans le creux, quoi. Je ne sais pas si j'ai répondu clairement à la question.
Bah, je sais pas, je prends un cas extrême, il y en a un qui est acide et l'autre qui est basique en dessous, tu fais comment ?
Ah, si tu as de l'acide au-dessus et du basique en dessous. Pourquoi pas ? Il ouais, n'y a pas de raison. Ouais. Ouais.
Ah oui,
ça sera plus calcaire. Ouais. Ouais. Dans des sols calcaires, c'est sûr que tu auras ça.
Donc finalement, tu plantes et puis.
Tu plantes et tu vois ce qui se passe. Non, mais.
D'accord. les micro-organismes dessus font.
Avec l'humus, normalement, t'es à 6,5. Bon, bon.
Si tu veux dire, c'est. Tu rééquilibres pas finalement, tu laisses comme ça, quoi.
Bah, en faisant, en laissant se décomposer la matière organique ou en favorisant cette décomposition, tu vas rectifier le pH. Mais tu cherches pas, hein, t'es pas obligé de te dire, d'être obsédé par ton pH tous les matins en disant, il faut que je. Non. Tu mets de la matière organique et tu crées un sol vivant. Et après, c'est les organismes vivants de ton sol qui vont faire que ton pH va s'équilibrer. Maintenant, c'est quand même intéressant d'aller tester un petit peu par ici pour savoir ce qu'on a. Mais les échelles de pH, c'est ce que je disais tout à l'heure. Au-dessus de 7, tu commences à avoir des problèmes parce que tu n'as pas assez de libération des minéraux dans le sol. En dessous de 5,5, c'est l'inverse, quoi. Tu as trop de libération. Donc, dès qu'il y a des pluies, tout fout le camp.
Ça peut expliquer des choses, mais on rééquilibre pas nous, quoi. C'est pas l'humain qui fait les choses, on comprend pourquoi ça foire,
mais si tu veux rééquilibrer toi-même, c'est effectivement, c'est chaulé, quoi.
C'est créer du l'humus le plus épais possible.
Ouais, ouais. Si tu as ça, tu n'auras pas de problème de pH trop dans un sens ou dans l'autre, quoi.
Ouais. Okay.
Alors tiens, ça va nous amener au principe d'Émile Gazelip, tiens.
Toi, pour rien, tu fais quelque chose pour ton sol, tu rajoutes tu testes le pH de tous les ans.
Alors moi je sais que je suis plutôt alcalin, je suis sol 2,2 avec le pH. Donc moi il faut que j'amène de la matière organique pour essayer d'acidifier mon sol.
D'accord.
Mais
en même temps la vigne elle aime bien
parce
ça.
Parce que quand tu amènes de la matière organique, tu amènes également des nutriments. Enfin, un tas de choses, et après tu peux avoir des excès de vigueur, donc dans la vigne on recherche pas l'excès de vigueur, par contre si tu fais de la salade tu vas les légumes, plus tu amènes de matière organique, mieux elles se portent. Maraîchage, nous en vigne on aime bien être aux alentours de 3% de matière organique dans le sol. En maraîchage tu peux atteindre les 10% voire plus.
Qu'est-ce que ça fait à la vigne quand tu mets trop de matière organique? C'est au niveau du goût du raisin, ça, qu'est-ce qui...
C'est que tu fertilises beaucoup ton sol, après tu as un excès de vigueur, et un entassement de végétation et une implantation de mildiou, ça crée un milieu très propice aux maladies. Quoi.
D'accord, ok.
Donc il faut jongler sur la vigueur et la quantité de récolte. Il faut que ça soit équilibré, quoi. Pas qu'il y ait un excès de végétation, parce que la vigne est une plante méridionale à la base, tous dans les pays chauds.
Oui.
On l'a domestiquée dans nos zones septentrionales, et sauf que le problème c'est qu'elle c'est pas une plante qui aime l'humidité et elle est très sensible aux maladies.
Oui, parce qu'elle fait trop de feuilles, c'est ça,
voilà,
et ça entretient l'humidité.
Il y a beaucoup de rosée, ça crée une atmosphère humide et ça tombe mal. Et en plus, si t'as un sol qui est très riche, et que tu as un taux de mycorhisation, par exemple, qui est très faible, donc les champignons dont on parlait, qui vivent en symbiose avec la plante sur les racines, ces champignons-là vont permettre d'absorber l'azote sous une bonne forme, une forme qui n'est pas pathogène, en fait, qui déclenche pas des maladies. Et si tu as un sol très fertile et que tu plantes de la vigne et qu'il y a un mauvais taux de mycorhisation, elle va absorber l'azote surtout sous la forme nitrate. Elle ne sera pas capable de digérer complètement tous ces nitrates, donc il va y avoir des nitrates libres dans la sève et directement disponibles pour les maladies. Et donc ça va amplifier le phénomène de maladie. Donc il faut faire attention. C'est une plante qui est fragile, la vigne. Elle vit au soleil normalement, pas dans nos zones. On l'a domestiquée, mais génétiquement, elle n'est pas faite pour résister réellement au mildiou ou à l'odium. Parce qu'elle n'a pas été
habituée
dans des régions où il y a le mildiou.
Ça,
Donc il faut faire attention.
On est encore, si on revient à la permaculture et à ce qu'on a vu par rapport au sol qui a tendance à aller vers la forêt, et je disais qu'on tend un élastique et puis on essaye de maintenir la tension de l'élastique pas trop fort pour qu'on puisse le tenir facilement et qu'en même temps que ça produise. Mais si on laisse faire, ça va vers la forêt. Et là, ce que tu expliques en fait sur la vigne, c'est on a vraiment tendu l'élastique parce que on est à un point où on est dans, on a implanté des vignes dans une région où il ne devrait pas y en avoir. Donc du coup, après, il faut gérer les problèmes qui s'en suivent, quoi.
Ce qui est proche de son.
Mais sur 2 années, comment on vient de vivre très humide,
c'est compliqué. Ouais.
Donc après, il faut faire en sorte. Et en plus, la vigne, dès qu'elle a les pieds dans l'eau, elle déclenche plus du tout de mécanisme de défense naturelle contre les maladies. La vigne, c'est vraiment une plante qui a un système racinaire qui peut aller très loin, mais qui est très fragile et qui craint l'asphyxie. Donc sur des années humides, on sait que la plante, elle n'est plus du tout en position de défense contre les maladies. Elle va recevoir toutes les maladies qui vont traîner. Donc il faut jouer sur ce taux d'humidité en maintenant de l'herbe, pour que l'herbe pompe l'eau et qu'il y en ait moins pour la vigne. Enfin, c'est mouillé, c'est compliqué. Une année sèche, ça va bien. Mais... Et il faut des sols drainants.
Il faut mettre des éoliennes aussi. Ça va sécher les...
Ce qui est important dans ce que tu dis, là, dans tout ce processus que tu as décrit, c'est qu'on ne peut pas séparer le sol de la façon dont la plante se nourrit et des besoins de chaque plante, etc. Voilà, c'est, tout, c'est ce que tu disais au départ. C'est un ensemble de connaissances.
Oui, c'est pas forcément... Enfin, on adapte à ce qu'on veut faire, bien sûr. Ouais. Si on veut à tout prix mettre de la vigne, on sait qu'il y a un prix à payer ou qu'il y a un choix de gestion de sol à avoir qui est celui-là. Quoi.
Et donc après, tu peux te servir de cette matière organique que tu veux apporter pour maintenir le taux d'humus pour calmer des excès de vigueur. Donc, si tu as un manque de vigueur dans une vigne, il faudra plutôt amener de la matière organique qui sera compostée, très riche en azote et en azote disponible rapidement pour la plante pour qu'elle ait envie de pousser. Quoi. Si tu as un excès de vigueur, à l'inverse, il faudra plutôt apporter de la matière organique relativement brute, riche en cellulose, donc c'est du BRF, des choses comme ça, où là, pour la dégradation de cette matière, au départ, ça va demander de l'azote, c'est ce qu'on appelle la soif azotée. Pour enclencher ce phénomène de décomposition, les micro-organismes ont consommé l'azote du sol pour se multiplier puis atteindre une population suffisante pour dégrader cette matière. Et donc, en consommant l'azote, il y en aura moins pour la vigne et donc elle sera moins vigoureuse. Par contre, une fois que cette matière va être dégradée, ouais,
après, il y aura plus d'azote,
mais ouais, la vigne sera calmée. Après, on peut gérer ça en fonction de la vigueur de la plante, choisir le type de matière organique que tu vas porter. Et c'est valable pour d'autres cultures. Si tu as un excès de vigueur sur des rosiers ou des choses comme ça, tu mets du BRF, tu vas les calmer. Puis 3 ans après, ils vont revenir. Ça va... Une fois que la machine est en route, ça va. Mais la matière brute, il faut faire attention. Ça consomme de l'azote au départ. Et quand on implante des massifs ou des choses comme ça, je pense qu'au départ, il ne faut pas mettre de BRF sur une plante qu'on vient de planter, sur un arbuste. C'est des branches foyées.
Après, oui, non, enfin, il faut différencier copeaux de bois et puis BRF. BRF, c'est des rameaux pleins de vie, quoi, coupés au moment où toute l'énergie est dans le rameau. Donc, coupés, hachés, et normalement, ils apportent de l'azote au départ. Si on met du BRF, hein, vraiment. Si on met du... Donc, si on...
Souvent, ce qu'on trouve en commerce, c'est...
Oui, c'est du...
Oui,
ça, c'est plus du rameau, quoi. Ouais, ça, c'est plus... C'est plus du BRF, ouais. Ouais, effectivement. Ouais. C'est plus du bois. C'est plus du bois, ouais. Mais, bon, voilà, le vrai BRF, c'est des rameaux, assez fins, on va dire, allez, comme le pouce maximum, des rameaux de l'année qui sont plein de vigueur. Et donc, il y a tout un tas de minéraux dedans, de l'azote à gogo. Alors, par contre, quand on en met dans le sol, on amène de l'azote, donc on favorise les plantes en azote, mais on favorise aussi les micro-organismes qui consomment l'azote. Et quelques temps après, 1 an, 2 ans après, ou 6 mois après, on va se retrouver avec la fin d'azote. Alors, je sais pas si la soif d'azote, c'est la même chose, mais c'est, hein. On va se retrouver avec la fin d'azote, c'est-à-dire que les micro-organismes ont tout consommé, les plantes et les micro-organismes ont consommé tout l'azote qu'il y avait, et ils sont très nombreux à en vouloir encore. Et donc, problème, il n'y en a plus, et donc tout le monde se fatigue, quoi, les micro-organismes, les plantes, et tout le monde est à gérer, enfin, c'est délicat à gérer le vrai BRF, c'est c'est pas facile à gérer, faut y aller doucement, quoi. Faut pas vouloir en mettre une épaisseur comme ça, puis après vraiment se trouver dans les problèmes. Et bah après, ouais, effectivement, si on met du bois, on peut peut-être doser un peu plus l'azote qu'on met,
le pire, c'est
qu'on met par un autre biais, quoi.
Ça, c'est horrible. Faut pas mettre d'écorce de pin sur un sol.
Ça fait,
ça stérilise le sol.
Ouais, parce que c'est.
L'éterpène, c'est
toxique,
c'est antifongique, ouais. Et puis c'est très dur à dégrader. C'est beau, hein, mais ça empêche l'herbe de pousser, mais c'est très dur à décomposer. Et quand vous voyez des massifs avec 20 cm d'écorce de pin autour pour pas que l'herbe pousse, souvent les plantes, elles ont du mal à prendre le dessus. Parce que, cette écorce est très dure à décomposer et toute l'énergie du sol va dans la digestion de cette écorce-là.
Disons, pour les massifs décoratifs, c'est intéressant parce que ça évite de les tailler trop puisqu'elles poussent moins, quoi. Bon.
Ouais. Et en plus, c'est comme si ça se dégrade tout doucement. Ah. Donc, ça dure dans le temps. Quoi.
Ouais.
C'est pratique pour ça.
Mais
en matière d'énergie, c'est pas terrible.
Et donc, si on veut faire un taillage pour conserver l'humidité et que les mauvaises herbes poussent pas autour, qu'est-ce qui serait plutôt
la paille, ça va être digéré dans l'année.
Et il n'y aura pas cette consommation d'azote avec la paille.
Paille et limaces, attention, par contre. C'est un super truc pour les limaces. Mais on parlera des limaces un peu plus tard parce que, franchement, on a tellement le problème ici que faut en parler. Quoi. Ouais, faut en parler. Oui. Ah, et ça, c'est extraordinaire. Alors, la neige, si j'ai bien compris, mais il me semble avoir bien compris, c'est elle capte de l'azote au moment où elle se cristallise dans le ciel. Elle tombe, et c'est au moment où elle fond qu'elle l'intègre dans le sol. Donc, qu'elle reste pas longtemps, à mon avis, c'est pas grave. Mais par contre, qu'il n'y en ait pas, ça c'est embêtant. Ouais. Mais ça sent, il y a une odeur, quand il y a de la neige, il y a une odeur particulière, on sent l'azote. Enfin, ça sent pas les engrais azotés, mais ça sent une bonne odeur là. Mais on sent qu'il y a quelque chose, on sent quelque chose de particulier. Je sais pas vous si vous êtes.
Neige de février, ça vaut du fumier de mouton.
Ah oui! Puisqu'on est dans les comparatifs et dans ça, vous savez combien de vers de terre en poids sur un hectare? Bon, c'est un hectare normal, à mon avis, c'est pas fraternité ouvrière, hein, c'est un hectare normal. Combien de. Le poids de vers de terre?
5 tonnes.
C'est une tonne. Les données que j'ai, c'est une tonne. Mais à mon avis, on peut les atteindre, les 5 tonnes, si on se débrouille bien. Mais une tonne de vers de terre. Donc, si ça mange 20 fois son poids, donc ça fait 20 tonnes.
Digère.
Oui, ouais, enfin, ça fait passer à travers son.
En matière
de humus. Ouais. Donc, ça fait 20 tonnes. Mais par jour, ça me semble beaucoup quand même. Faut que je regarderai ça parce que c'est vraiment intéressant. Enfin, ça, voilà. Si on compare à une vache, par exemple, enfin, un animal. Je sais pas trop. Je sais pas trop. Mais, enfin voilà. Donc pour ramener de l'humus et de la matière organique, à partir de matière organique, il n'y a pas mieux, quoi. Il faut vraiment les nourrir, les favoriser, les. Alors là, j'ai quelques principes. Est-ce que vous voulez faire une pause?
Non, ça va. Hein. Moi, ça va.
Non. On vient de commencer. Ouais, non, mais... oui, on peut, ouais, merci. C'est une bonne idée, parce que moi je voyais là, il n'y a pas de problème. Le comment? C'est le ver de fumier celui-là? Non? que le celui qui est utilisé dans les lombris compost. Ah ok, d'accord.
Les vers rouges qu'il y a dans un tas de compost,
c'est l'ombre.
Faut savoir qu'ils vont mourir dans le sol, ils ne survivent pas. C'est pas parce que tu as plein de vers de terre dans ton compost, tu dis chouette, j'ensemence mon sol en vers de terre, mais non, ils ne survivront pas.
Par contre, ils sont très bien dans un. Dans des toilettes, dans le compost de toilettes sèches. Donc voilà, ils sont. Ils sont... Ou pas. C'est ça. C'est ça. Alors là, j'ai repris quatre principes un peu supplémentaires, enfin et complémentaires des autres que j'ai mis, mais qui concernent vraiment le sol, c'est les principes d'Emilia Zolip, donc qui a travaillé beaucoup sur, à partir des travaux de Fukuoka, à les adapter en France. Malheureusement, dans le sud, Emilia Zolip, H-A-Z-E-L-I-P. Il y a un film d'elle sur la clé USB. Et bon, elle a beaucoup. Contribue à améliorer les. Enfin, à transplanter les travaux de Fukuoka dans le sud de la France, pas trop dans le nord.
Qu'est-ce qui manque en permaculture ?
Pas trop dans le nord, puisqu'elle, elle était avec des gros paillages très épais, et quand on fait l'expérience de ça, ici, c'est extraordinaire. On a des limaces à gogo, des mulots, tout ce qu'il faut qui pousse dedans, mais pas trop de plantes par contre. Bon.
J'ai essayé de faire des pommes de terre.
Les pommes de terre, ça marche bien.
Ouais. Moi, elles ont jamais réussi à sortir de la surface. Elles sont mangées au fur et à mesure qu'elles poussaient.
Ah oui. Bon, on repart parce que sinon on est obligé de faire une pause, et puis comme on vient de commencer, c'est quand même embêtant quoi. Et puis les principes d'Emilia Zolip, vu qu'on est vraiment dans le sol et puis dans toute la problématique du sol, ils sont vraiment très pertinents à cet endroit-là. Alors couvrir le sol. Allez, elle le faisait avec de la paille. Ça peut être des cailloux aussi. Les cailloux, c'est aussi une bonne couverture de sol. Et là, ça fait pas venir les limaces, ça fait plutôt venir les carabes, qui sont prédateurs de limaces. Donc, en ayant des petits tas de cailloux, ça leur fait des abris. Ne jamais tasser le sol, parce que évidemment, si on le retourne pas et qu'on l'aère pas et qu'on laisse les vers de terre faire, le sol, c'est une éponge. Mais c'est pas une éponge. Disons, une éponge, c'est flexible. Ça revient à sa position. Là, nous, si on marche dessus, hop, on écrase, on a étouffé tout un tas de cavités, et puis, voilà, ça reste comme ça le temps que les vers de terre retravaillent. Un sol, dis donc, il est confiant aujourd'hui, lui. Non, il est très peureux. Ouais. Le sol, il faudrait plus le comparer à un pain qui lève. Donc, il y a des bulles dedans. Et si on se met à écraser le pain, eh ben les bulles, c'est foutu quoi. La pâte, elle sera pas levée pareil. Elle va pouvoir retravailler un peu, mais ça va reprendre du temps.
Oui, quand on veut le travailler, le sol, faut bien marcher dessus et se déplacer dessus.
Oui, alors. Emilia Zolip, ce qu'elle faisait, c'était des buttes. Donc c'est elle qui a vulgarisé la culture en buttes en France. Et donc, moi je peux. On marche surtout pas sur les buttes. Alors tout est dans sa vidéo, elle explique tout ça. Elle montre quelqu'un qui marche sur la butte. Alors il y a des solutions. Les buttes, entre parenthèses, la bonne taille d'une butte, c'est qu'on puisse travailler quand on est dans cette position-là. Donc d'un côté et de l'autre. Donc là, on a la butte, elle est ici, quoi. Donc ça permet de ne pas avoir une butte trop large sur laquelle on ne peut pas travailler. Il y aurait une possibilité, si on voulait vraiment mettre le pied sur la butte, parce que c'est quand même très pratique, c'est d'enfoncer des pieux à espace régulier au moment où on fait la butte, quoi. Donc on perd une toute petite surface, mais ça nous fait un appui, c'est quand même intéressant. Même pour les mains, on peut appuyer une main et puis travailler comme ça. Parce que c'est vrai que après c'est pas pratique. Bon. En même temps, ça travaille la souplesse, mais. Donc ne jamais tasser le sol, parce que ben, un sol tassé, ben, il va perdre une partie de sa fertilité. Et ben, plus on va le tasser, puis moins il sera fertile. Ne pas retourner le sol non plus. Donc, bon, si c'est les vers de terre qu'ils font, ben, tout va bien. Et ne pas utiliser de chimie. Bon, avec les limaces, des fois, il y a des problèmes. Donc c'est bon, c'est simple, c'est mais ne pas tasser, c'est vraiment c'est la chose à laquelle on pense pas forcément, et c'est vraiment important dans un sol vivant comme ça. Ah non, je vais pas arrêter tout de suite là, pardon. Alors je vérifie ce qu'on a vu ou pas vu. Oui, le sol naturel, on en trouve dans les forêts, dans les lacs, dans les prairies aussi, et dans les jardins où le sol est couvert. Donc ici, couvrir avec des pierres, ça pourrait ne pas être une mauvaise idée en fait.
Des pierres ou des dalles, parce qu'ici,
des dalles. Après, si c'est trop gros, ça va pas. Non, c'est, quand je dis. C'est vraiment les cailloux moulinés par tes paysans. Voilà, alors du couvert vivant aussi. Bon, ça c'est bien. Enfin, moi je dis ça, c'est par rapport aux limaces. Hein. Parce que le couvert végétal, les limaces elles y vont quand même. Mais sauf que elles ne mangent pas que notre production, elles mangent aussi le couvert végétal. Donc du coup, ça les. Ça répartit un peu.
Mais par contre, là, moi, je suis en train d'aérer mon sol et j'ai remarqué beaucoup de larves, justement, de carabes, parce qu'il y a un équilibre qui se fait, les carabes sont en train de se développer.
Ah, super. Ouais. C'est une bonne chose, parce que c'est des limaces en moins pour les années à venir.
Ça dépend des types de carabes, enfin, c'est comme des vers blancs, si tu veux, ou pas blancs.
Ah oui, d'accord.
Ou pas
blancs, oui,
d'accord. Tu vois qu'il y a des petits
Ça mange, je sais pas, ça mange les œufs, ça mange les petites limaces.
T'as plusieurs sortes de carabes, mais il y a des petits carabes noirs qu'on voit assez souvent dans la terre.
Il y a ceux qui courent comme les ratés là qui sont vermis.
Je vais finir sur le sol et puis après on revient sur les limaces que j'ai vraiment. Traiter la limace d'une manière particulière, parce que non, ici c'est vraiment le problème. Et en permaculture, on voit jamais ça dans aucune littérature, enfin très peu quoi. Emilia Zolip, elle mettait des coureurs indiens, mais après elle en mettait plus parce qu'ils s'attaquaient aussi des canards coureurs indiens qui sont végétariens. Mais après, ouais. Mais ils sont végétariens pendant un moment quoi. Après, qui sont pas végétariens justement, pardon, qui sont carnivores. Mais au bout d'un moment, ils finissent par manger aussi les légumes. Donc, là, il faut doser. donc là, j'étais sur le mulch. Donc, comment ne pas détruire la fertilité du sol? Bon, j'ai déjà à peu près tout dit là. Ne pas détruire la fertilité du sol, ben, le laisser le plus naturel possible, le plus couvert possible, le plus humide possible. Et en marchant le moins dessus possible. Bon, c'est un peu ce qu'on a dit tout à l'heure. Ouais. Moi, c'est important. Restaurer la fertilité, on l'a vu aussi dans le. Alors, sans faire tout ce qu'on a vu là dans le diaporama, on retrouve. Voilà, sans faire tout ce qu'on a vu là, déjà, si on couvre et qu'on apporte de la matière organique et qu'on laisse faire, bon, on a déjà. On a des choses qui vont se faire toutes seules, quoi. Voilà, là, c'est les types de couvertures en mettant. En mettant des choses dessus, là c'est du sang, de l'os, il y a des endroits où ils mettent de la chaux, il y a des endroits où ils mettent des algues, bon, on peut toujours amender, hein. C'est pas... Mais...
Moi je vais vous poser une question bête et novice, mais ouais. Quand j'ai un tout petit bout de jardin, un tout petit ridicule, mais moi je désherbe beaucoup et je laisse ce que j'ai désherbé
en place, ouais.
Bah,
pour l'herbe, ouais, l'herbe, comme ça fait un tapis qui laisse pas passer l'humidité, un tapis de racines, c'est pas intéressant de laisser les racines en place, parce que dès qu'on va laisser les racines, elle va repousser. Enfin, on peut pas se permettre de la couper. Si on la coupe, elle repousse l'herbe. Tout le temps, quoi. Donc, on peut pas se permettre de la couper. Par contre, pour toutes les autres plantes qu'on peut couper et où ça fait mourir les racines, même si on est obligé de la couper deux ou trois fois, bah, c'est intéressant de laisser les racines dans le sol. Ouais. Bah, si elle reprend pas, si elle redémarre pas, oui. Mais de l'herbe ou d'autres plantes. Alors pour l'herbe, voilà, ma réponse c'est pour l'herbe, c'est bien d'arracher. Pour d'autres plantes, pas forcément. Par exemple, je sais pas, les chardons, on les coupe, ça se remplit, la racine se remplit d'eau. Bon, elle pourrit généralement, elle pourrit assez vite. Si elle pourrit pas, ben on va être obligé peut-être amené à recouper deux fois ou trois fois. Mais après, elle va laisser des canaux d'humidité dans l'eau et des canaux d'air dans le sol et des canaux d'air. Et donc, elle va contribuer à améliorer la fertilité, plus la matière organique qui est déjà dans le sol. Donc, on n'a pas besoin de l'enfuir puisqu'elle y est déjà. Fukuoka, lui, il enfuissait des morceaux de bois carrément, c'est presque du bois de chauffage. Sous ses buttes, il faisait des buttes. Et la première chose qu'il faisait, c'est qu'il mettait du bois, des branches, bon, des grosses sections, quoi. Et dessus, il remettait de la terre. Il refaisait sa butte comme ferait Emilia Zoli. C'était valable chez lui. C'était valable chez lui au Japon, quoi.
Parce que le bois, il est dégradé par des champignons et tous les champignons sont aérobies. Pas de champignons anaérobies. Donc mettre du bois brut sur un tas de terre, on sera en milieu anaérobie.
Dans une butte, hein, donc je pense que je suis pas sûr qu'on ait anaérobie complètement. Je pense que ça doit se dégrader lentement.
Tu fais un compost et qu'en dessous tu mets des branchages pour une partie de drainage, justement,
Mais
vraiment ils se décomposent.
Oui. Parce qu'on est pas complètement anaérobie. On est dans l'interface en fait. L'anaérobie qui va être un peu plus profond dans le sol, et puis l'aérobie qui va être vraiment la surface dans les 6 cm, les 10 cm du dessus. Mais dans la butte, on va être. Il y aura un peu pénétration d'air, mais pas trop.
Comment on peut faire attention au vieux bois, parce qu'après il y a des champignons qui vont s'installer dessus, comme du pourrillier par exemple, qui sont.
Ouais. Non, mais dans des coins humides, ok. Je dis pas qu'il faut faire ça, je dis que lui il faisait ça là où il est. Encore une fois, il faut bien regarder là où on est, puis faire en fonction de là où on est. Vous avez des questions, hein, encore d'autres questions sur le sol sur le sol, avant qu'on attaque les limaces. Oui, si on fait des cultures annuelles, oui, effectivement. Alors pourquoi ? Parce que les plantes, une plante quand elle arrive, c'est parce qu'elle a le bon milieu, pour pousser. Bon, quand on l'implante nous-mêmes, bon ben voilà, elle va prendre les nutriments dont elle a besoin, elle va en libérer d'autres dans le sol, et l'année d'après, ben elle sera plus adaptée à cet endroit-là puisqu'elle s'est déjà nourrie de ce dont elle avait besoin. Par contre, elle sera adaptée pour d'autres cultures où elle aura, enfin, dont elle aura libéré les nutriments nécessaires. Quoi. Ok. C'est bon le sol ? Bon, les limaces.
C'est comestible.
Hein.
C'est comestible comme
l'escargot. Ah bon ? Moi j'en mange un paquet.
T'en manges ?
J'ai un peu de qui le mange.
Ouais, ah, cru ?
Ah, c'est
bon.
Comment ?
Ah,
bah, le limon, c'est l'utilisé. Et t'as vu
l'escargot, c'est l'utilisé. Cette année, vous allez voir.
Ouais. Dis-le plus fort. J'ai plus ton prénom, mais.
Oui, la bave de limace, c'est utilisé dans un sirop pour la toux qui vient d'être à cause de ça, pour d'autres raisons. Et comme expectorant, on a pu manger tout.
Donc, ouais, anciennement, il y avait des sirops de limace. Bon, maintenant, je connais. J'en ai pas encore vu. Hein. Ah, il y en a dans les. Ah, d'accord. C'est. Ah, oui. Non, c'est un sirop, mais ça se faisait en bocaux, là, ils faisaient des sirops pour tout. Et je ne savais pas que ça existait encore. Bon alors, plein de techniques pour les limaces. Moi, j'ai un conseil, vous les utilisez toutes, sauf la dernière, les granulés bleus, sauf si vraiment vous êtes désespéré. Ouais. Bah. Non, je parle des granulés qui les empêchent de se reproduire. Il y a des granulés bio qui font. Ouais.